Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et nous sommes installés pour l'occasion au Salon de l'Agriculture en Nouvelle-Aquitaine pour la deuxième semaine consécutive. Nous avons décidé de donner la parole aujourd'hui aux éleveurs, à ceux qui ont fait le choix de la préservation de notre biodiversité animale et qui en vivent, ça c'est très important, qui ont su créer des débouchés économiques tout en participant à la sauvegarde des races locales. Et on commence tout de suite avec notre premier éleveur.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et aujourd'hui, nous donnons la parole aux éleveurs qui ont fait le choix de la biodiversité. Et on va commencer avec vous, Michel Mouton. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors vous êtes éleveur depuis 25 ans, à côté de Cestas, à Cestas même,
ouais.
À côté de Bordeaux. Donc qu'est-ce que vous élevez à côté de Bordeaux ?
Alors j'ai la chance et le privilège d'élever sur la ferme conservatoire du domaine de Jarry avec ma femme Isabelle Ortuzzi, des brebis landaises, des cochons gascons, des porcs gascons et de la volaille gasconne.
Le porc gascon, faut en parler de ce porc, hein, parce qu'on parle toujours du porc noir de Bigorre, et pourtant,
c'est la même chose. Porc gascon étant le nom générique, et le noir de Bigorre a su développer une marque qui a mis en valeur sur une partie de la région qui élève ces porcs-là quelque chose de très structuré, mais ce sont les mêmes animaux. Voilà.
C'est ça, c'est une appellation noir de Bigorre qui leur a permis effectivement de davantage communiquer.
Tout à fait, ils ont su.
Mais c'est le même porc, c'est exactement le même porc. Alors peut-être qu'il y a quand même des différences au niveau de l'élevage. C'est compliqué d'élever un porc gascon, c'est capricieux, c'est
l'animal
exigeant.
N'est pas capricieux. Mais par sa nature même, c'est un animal qui pendant des siècles a été sélectionné sur des territoires un peu difficiles. Et il a besoin d'abord d'espace pour grandir, et il a besoin de temps. Donc ça veut dire qu'au niveau de son développement, il va mettre un peu plus du double pour arriver à l'âge adulte, en ayant bien entendu une vie en extérieur en grande partie, ce qui fait la qualité de sa viande.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est incompatible avec l'élevage intensif.
Alors ça, dans le début, lorsque nous avons commencé à préserver ces races, je vous parle d'il y a plus de 25 ans, on a eu la chance de discuter avec des éleveurs qui avaient un peu tout essayé, y compris dans des croisements, et qui nous ont dit « ça ne tiendra pas, ces animaux ne tiennent pas en enfermement ». Donc c'est pour ça que nous avons fait le choix de les élever en plein air, comme d'autres éleveurs d'ailleurs, sur des surfaces où ils peuvent marcher, fouiller dans la terre, chercher leur alimentation, en plus bien sûr de ce qu'on leur donne. Et nous sommes aussi en certification bio, puisque c'était assez simple à partir du moment où on veut faire de la qualité. Il faut essayer de donner toutes les chances pour réussir.
Si ce porc était gardé dans un lieu clos, qu'est-ce qu'il perdrait ?
Ben, d'abord, il perdrait la variété de ce qu'il peut trouver dans le sol, mais comme tous les animaux qui sont élevés en batterie, ils ne sont alimentés qu'avec des aliments qui sont triés, sélectionnés et aménagés. Ensuite, de par son caractère, il y a des problèmes de comportement. Il faut savoir que ça a malheureusement fait la une de plein de médias. Ces animaux qu'on est obligé de traiter avec des calmants, qui donnent des antibiotiques systématiquement, qui sont en espace concentrationnaire, rien de bon ne peut en sortir. Le choix d'avoir préservé cette race nous rendait obligatoirement dépositaires de cette qualité et donc la nécessité de les avoir hors bâtiment une majorité du temps. Ils ont leur cabane, ils y vont quand ils veulent. Les truies font leur nid comme elles veulent, avec de la fougère ou avec de la paille qu'on leur amène. Mais ils ont un parcours et à partir de là, ils sont en pleine santé et ça se goûte dans les produits. Il faut le savoir, on ne peut pas avoir de la qualité si on fait de l'industriel. Il faut arrêter ces illusions-là. Quelle que soit la race, on peut parler de moutons, on peut parler d'autres animaux. Il faut que les animaux aient de l'espace et une vie qui corresponde à ce que la nature leur a demandé
de vivre.
C'est ça,
il ne faut pas aller contre la nature. Vous avez fait le choix avec votre femme d'élever finalement que des races locales.
Oui.
C'est indispensable pour vous de rester vraiment sur...
Écoutez, ça correspondait à deux choses. On a acheté une propriété dans un terroir qui est bien ciblé, la lande girondine, qui a ses caractéristiques géographiques, climatiques et autres, sur lequel pendant des siècles se sont développées des races adaptées à ces biotopes, au sens large, et adaptées aussi à l'élevage, c'est-à-dire ce que les humains en faisaient au niveau de leur économie. Et ensuite, comme au départ, ce n'était pas du tout pour en vivre, c'était simplement un petit élevage familial, ça nous a semblé évident d'avoir une petite action citoyenne. Et nous revendiquons cet aspect-là, c'est-à-dire de dire, bah, écoutez, tant qu'à avoir quelques animaux, autant aider, tant que faire se peut, à préserver quelques spécificités biologique et génétique, surtout qu'il y a 25 ans, ça n'était pas encore entré dans les mœurs que de parler de biodiversité. Nous étions quelques pionniers, pas les seuls, sinon on n'aurait rien fait. Ce n'est pas avec quelques petits animaux qu'on aurait pu faire seul. Mais c'était assez marginal et assez difficile de ne pas passer pour des rigolos. Ce n'est pas important de passer pour des rigolos à partir du moment où on sait qu'on œuvre à une œuvre qui est sur une plus vaste échelle. Voilà.
Mais alors, ça demande, quand on vous écoute, finalement, ces élevages locaux, plus de temps, plus de travail.
C'est certain.
Mais en termes de débouchés économiques, hein ?
Alors, les débouchés, nous n'avons aucun problème. Pourquoi ? Parce que nous sommes près d'une grande ville. La production ayant démarré lentement par le bouche à oreille, la vente se fait très facilement. Les problèmes sont autres. D'abord, le temps. C'est-à-dire que le temps consacré à l'élevage de ces animaux est plus important. Donc, économiquement, il faut pouvoir arriver à quand même rentabiliser son temps de travail. Et ensuite, le fait de la disparition des petites fermes, dans la Gironde d'une manière globale, mais sur l'impact national aussi, ce qui fait qu'un certain nombre de services ont disparu. Par exemple, plus d'abattoirs à Bordeaux, par exemple, des difficultés pour trouver des charcutiers, des transformateurs qui puissent travailler dans la qualité. À partir du moment où il n'y a pas beaucoup de producteurs, eh bien, c'est normal, ces métiers-là ont disparu. Et tout le challenge actuellement, c'est de faire revivre ces périphéries urbaines avec des petits élevages qui permettent à des gens de vivre, même modestement, mais qui vont surtout recréer une dynamique locale qui correspond à la qualité des produits et à la demande liée aux contraintes environnementales qui sont sur nous. Les circuits courts, il n'y a pas plus court quand vous produisez à moins de 20 km de là où les gens vont manger leurs produits, à condition que les autres infrastructures soient remises en place. Et c'est ça une des difficultés actuellement, d'abord de rendre viables ces petites exploitations en les recréant, en facilitant leur installation. C'est un combat difficile dans lequel les autorités locales et régionales ont fait beaucoup et doivent continuer à faire pour faciliter justement l'implantation de jeunes ou de gens en reconversion. L'accès à la terre est très difficile, ce qu'on appelle
le
foncier.
Hein,
voilà, c'est un barrage.
Flambé, hein.
Ensuite, ouais. Les bâtiments, ensuite le lieu de vie. Et par ailleurs, une banque ne va pas prêter à quelqu'un qui dit « je me lance avec quelques animaux, je démarre une activité ». C'est difficilement compréhensible. Et ensuite, c'est s'endetter à hauteur de difficultés de remboursement, puisque ça n'est pas très, très rentable d'un point de vue économique. Par contre, ça peut faire vivre des gens. Et c'est là que, par des aménagements, avec l'accès à la terre par des communes, par des grands propriétaires qui permettent à des troupeaux de brebis de venir rendre un service chez eux et en même temps de faire vivre un certain nombre de bergers qui peuvent régler, ou en tout cas approcher, des règlements compatibles avec les charges générales environnementales et avec la qualité des animaux qu'on veut élever.
On est vraiment sur des produits de niche. Hein.
On est sur des produits de niche, mais qui demandent qu'à se diffuser parce que nous sommes en sous-production par rapport à la demande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on explique aux gens, où on fait goûter les produits et où ils commencent à comprendre grâce à l'évolution des mentalités qu'on voit là, de manière accélérée depuis une dizaine d'années, qu'il vaut mieux manger moins de viande, mais de meilleure qualité, et à partir de là, d'accepter d'avoir un lien avec les producteurs, que ce soit les réseaux d'AMAP pour le maraîchage ou même qui diffusent certains autres produits. On a là quelque chose qui devient cohérent, mais c'est difficile. L'être humain est un urbain maintenant qui a coupé ses racines avec la campagne. C'est un bon moyen par des fermes de proximité de lui redonner un contact avec cet environnement. Ça évitera certaines dérives dans lesquelles on tombe actuellement ou tombent certaines personnes qui sont trop loin du monde animal et du monde agricole et qui vivent des excès par rapport à des modes liés à des mauvais comportements d'éleveurs, qui sont marginaux quand même. Mais il y a un grand combat à mener, surtout pour remettre en place ce mode d'élevage, je le redis, qui permet de contenter et la biodiversité et les circuits courts et de permettre à des gens de s'installer même modestement, en faisant un métier qu'ils aiment.
Oui, puis on peut aussi trouver des alternatives. Par exemple, dans votre cas, dans le cas de votre femme, vous avez décidé d'aller aussi sur le porcelet, qui économiquement est intéressant. Donc,
tout à fait.
On peut
là,
varier
contrairement
au niveau des produits.
À d'autres collègues qui peuvent avoir plus d'espace et de temps pour engraisser plus de porc, nous avons limité le porc charcutier en quantité et nous avons découvert, parce que ce n'était pas une habitude. Moi, je suis issu de la Dordogne, donc purement aquitain. Ce n'était pas des viandes que nous
consommions. Ce n'était pas une habitude culinaire, du coup.
Pas du tout. Le porcelet n'était pas consommé dans la région. Or, en fait, quand on a fait découvrir ces produits-là, la clientèle s'y est mise et on a, de ce côté-là, un apport économique plus direct avec moins de charges de travail tout en permettant de préserver encore les variétés qui sont spécifiques, puisque les porcelets sont aussi élevés en plein air dehors avec leur mère, ce qui donne une qualité de produit qui est vraiment déterminante. On a des anecdotes, vous savez, à propos des brebis landaises, quand on a amené les premières brebis à l'époque où il y avait un abattoir à Bordeaux, on voyait nos abats qui disparaissaient.
Mince.
Chaque fois qu'on récupérait les carcasses d'agneaux, il manquait des abats. Alors la formule était, le vétérinaire les a saisis pour analyse. Et on s'est renseigné, en fait, ils ne saisissaient pas nos... C'était les gens sur la chaîne d'abattage qui, en voyant la qualité des foies et des abats, les gardaient pour leur casse-croûte de midi. C'est un bon indicateur, quelque
c'est
part.
Vrai.
Ça rassurait sur la qualité de ce qu'on faisait. C'était empirique, mais certain.
Merci beaucoup, Michel Mouton. Je rappelle que vous êtes éleveur avec votre femme depuis plus de 25 ans à Cestas, à côté de Bordeaux. Et donc, vous élevez du mouton landais, du porc gascon et...
De la poule gasconne.
Et de la poule gasconne. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Merci à vous.
On se retrouve tout de suite avec un autre éleveur, cette fois-ci de chèvre, pour nous proposer des produits à base de lait de chèvre. A tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et me voilà dans les allées du Salon de l'agriculture ici à Bordeaux pour aller à la rencontre de ces éleveurs. Et je suis à côté de... Monsieur, comment vous appelez ?
Rossard, Jean-Luc.
Jean-Luc. Alors Jean-Luc, vous êtes éleveur de vaches ?
Bien sûr, éleveur partenaise.
Alors la partenaise, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette race de vaches ?
C'est la plus belle race au monde.
C'est-à-dire, mais encore.
c'est une toute petite race locale. Hein,
toute petite, mais elle est costaud cette race.
Ah, elle est très costaud.
Vous avez vu le cuisseau ?
Oui, ah, le cuisseau. Le globe, on appelle ça.
Le globe.
Non, mais je vais parler de petite race parce que c'est une race à petit effectif. On est aujourd'hui à 50 000 vaches, donc grossièrement 50 000 naissances, c'est ce que ça veut dire. Donc c'était une race qui vient de progresser depuis les années 80. À l'origine, la race partenaise, c'était une race de locale, forcément, Partenay, autour de Partenay, la Gâtine, son berceau. Et donc cette race, elle était... C'était une vache qui était là pour le travail et pour le lait, donc à l'origine du beurre, l'AOC Charente-Poitou.
Donc c'est une race laitière plutôt ?
À l'origine c'était ça, travail et laitière. Donc dans les années 80, les années 70 on va dire, cette race, vu les évolutions à l'époque, a fortement diminué. Et donc vers les années 80, elle a été recentralisée pour faire de la production de viande.
Alors c'est important pour vous justement de venir présenter cette partenaise ici au Salon de l'Agriculture ?
Bien sûr, maintenant on vient ici au Salon de l'Agriculture Aquitanima depuis qu'on est dans la nouvelle région. Donc nous on est tout en haut de la nouvelle région, hein. Donc les Deux-Sèvres, ce qui va vous parler plus, Marais-Poitevin, voilà, Niort bien sûr. Et donc Partenay au centre du département des Deux-Sèvres.
Vous êtes venu à combien de vaches en
là
tout ?
Aujourd'hui on a deux taureaux, deux vaches et deux veaux.
D'accord.
Donc on est venu en présentation.
Alors vous les présentez à qui ? Aux professionnels, aux particuliers, au grand public ?
Voilà, à tout le monde. Donc on est passé sur le ring pour présenter notre race. Hein, voilà. On avait forcément les gens de l'OS. L'OS est l'organisme de sélection qui était là pour nous aider, nous, à présenter avec les éleveurs. Donc qui ont expliqué un peu tout le déroulement et l'évolution de la race partenaise.
Donc cette race, elle est uniquement cantonnée à la Nouvelle-Aquitaine essentiellement ?
Pardon ?
Elle est cantonnée à la Nouvelle-Aquitaine, on en trouve ailleurs que dans cette
on
région ?
On en trouve ailleurs, voilà. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'origine c'est le berceau partenais, hein, de Sèvres, et qui est très élargi, donc Vendée, Pays de Loire. Maintenant on a la Bretagne, les Pays du Nord, Côte d'Or, tout ça, il y a des noyaux un petit peu partout en France et donc un peu à l'étranger aussi.
Alors nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas, je peux leur dire que vraiment on est assez impressionnés tout de même par sa masse musculaire, cette vache. Hein.
Voilà, c'est une vache, si vous voulez, avec l'évolution, on a vraiment, à partir du moment, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir des années 80, qu'on a vraiment orienté vers la race à viande, on a toujours sélectionné dans cette évolution-là. Et sans être chauvin, c'est que la race partenaise, c'est une vache qui est viandée avec beaucoup de finesse. Et les bouchers l'apprécient énormément, si vous voulez, par rapport aux morceaux nobles. Quand ils découpent, ils vont chercher les morceaux un peu plus loin Et donc, c'est ce qui fait aussi la valorisation du produit.
Merci beaucoup, Jean-Luc, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Merci, Jean-Luc, éleveur de Parthenaise.
Voilà.
Eh bien, on va aller se balader vers d'autres races. Alors, je vois, par exemple, qu'il y a la Charolaise, la Salerse, la Bazadaise, que je ne connaissais pas non plus, la Bazadaise, juste à côté. Eh bien, on se retrouve dans quelques secondes du côté de la Bazadaise. Merci, Jean-Luc.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et me voilà désormais à côté de Didier, le champion des Bazadaises, de ce qu'on m'a dit. Bonjour Didier, alors mettez bien le micro contre votre menton. Alors Didier, vous défendez la Bazadaise aujourd'hui au Salon de l'Agriculture de Bordeaux. Alors pouvez-vous me décrire cette race? Je pense que nos auditeurs de Sud Radio, ils en découvrent des races aujourd'hui avec nous. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Bazadaise?
Une qualité d'élevage facile à élever.
C'est-à-dire, en quoi elle est facile à élever hein?
Mais des vélages faciles, assez rustiques.
Donc elle s'adapte bien à son environnement?
Oui, oui, voilà.
Vous êtes installé où exactement?
À Sainte-Gemme, à côté de Montségur, ouais. En Gironde.
Et vous avez un cheptel de combien de vaches?
Une trentaine.
Et vous êtes venu à combien de vaches aujourd'hui au Salon de l'Agriculture de Bordeaux?
Deux.
Deux vaches?
Oui.
Pour les présenter, vous avez fait un tour sur le ring?
Oui, oui.
Alors, comment est-ce qu'elle a été accueillie sur le ring, votre vache?
Ah, mais elle était très bien accueillie puisqu'elle a fini première de sa section.
Mais vous avez eu le prix alors?
Oui.
Eh ben, c'est génial.
Voilà.
C'est la première fois ou bien vous êtes un habitué des prix hein?
Non, je suis venu l'an dernier aussi.
Vous aviez gagné le prix également?
Oui.
Non mais dis donc, et alors pourquoi est-ce qu'elle gagne le prix tout le temps cette Bazadaise par rapport aux autres?
Ah, je sais pas.
Donc le vélage facile à élever finalement.
Oui.
Mais elle produit de la viande, du lait,
de la viande de qualité, avec un persillé, un très bon persillé.
Comment ça se fait qu'elle ne soit pas plus connue que ça, la Bazadaise?
Disons que c'est une race à faible effectif et qui est en voie de développement. On a quand même des élevages un peu à l'étranger aussi, en Belgique, en Angleterre, en Australie. Voilà.
Et si on devait la comparer, par exemple, si on devait la comparer, je ne sais pas, à la Charolaise, dont on entend beaucoup parler comme race à viande, ou bien à la Salerse, qu'est-ce qu'elle a de plus?
C'est difficile à comparer, chaque race sont différentes. On ne peut pas jeter la pierre non plus aux collègues.
Mais bon, votre préféré, vous, c'est la Bazadaise.
Ben voilà.
Alors justement, quand vous venez comme ça à ce Salon de l'Agriculture, c'est l'occasion pour vous de présenter cette race à ceux qui ne la connaissent pas, de peut-être trouver des nouveaux débouchés. Quelles sont les principales raisons pour vous d'assister à ce Salon de l'Agriculture hein?
De faire connaître la race, d'expliquer aux visiteurs notre façon de travailler, notre race également, de leur expliquer le mode d'élevage. Quoi, voilà.
Et alors justement, il est comment ce mode d'élevage?
En général, extensif.
C'est-à-dire
les animaux en liberté dans les champs.
Ça fait du bien ça d'entendre ça.
Ah oui.
Donc la Bazadaise, elle évolue tranquillement, en liberté, en plein air, dans les champs. Merci beaucoup Didier. Donc ce prix, vous allez le mettre où chez vous? Vous les collectionnez? Vous en faites quoi de ces prix?
Pour l'instant, ils sont dans un carton.
Pour les accumuler.
Voilà.
Merci beaucoup Didier. Je rappelle que vous êtes éleveur de Bazadaise. Où ça, vous m'avez dit?
Sainte-Gemme.
À Sainte-Gemme?
En Gironde.
En Gironde.
Oui.
Donc à combien de temps d'ici?
Il y a 1h30 de route.
Et là, j'ai vu que vous êtes en train de charger là, les taureaux, les vaches.
Oui.
Là,
oui.
C'est la fin de la journée?
Oui.
Ça veut dire que demain, vous revenez avec?
Ah non, non, on a fini le week-end là.
Ah oui.
On est arrivé vendredi et on a fait les concours et on rentre.
Mais le salon, il dure une dizaine de jours. Hein?
Oui, mais les animaux, il va rester quelques animaux pour les visiteurs, mais le gros des animaux rentre chez eux ce soir.
Merci Didier, bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Ben, notre voyage au Salon de l'Agriculture à Bordeaux se termine ici avec Didier en extérieur. Et ben, je vous souhaite à tous un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, dans C'est ça la France.
Sud Radio, C'est ça la France.